fidèles auditeurs des médias partenaires du studio Kalangu, bonsoir. Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez au quotidien. Maraîchage et ennemis des cultures au Niger, comment y faire face est notre thème de ce soir. En octobre 2013, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel-SILS s'étaient réunis à Dakar pour le forum de haut niveau sur la relance de l'irrigation dans les pays du Sahel. Ils avaient à cette occasion rendu publique une déclaration dite déclaration de Dakar sur l'irrigation du 31 octobre 2013 dans laquelle il est indiqué que l'agriculture irriguée contribue directement et indirectement à la croissance de l'économie, à la réduction de la pauvreté rurale, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance de l'économie. La même déclaration précise cependant que malgré sa contribution potentielle à l'économie agricole et rurale des pays de la région, l'irrigation ne couvre actuellement que 2% des superficies cultivées au Sahel. Une agriculture irriguée qui, comme l'agriculture en général, fait également face à certains défis, parmi lesquels on peut citer l'invasion des insectes ravageurs. Quels sont les dégâts que causent les ennemis des cultures au maraîchage au Niger? Comment réussir à y remédier pour mieux booster les cultures maraîchères au Niger? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Haouji Adamou, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique INRAN, et Cheibou Madougou Adamou, agronome de formation, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNNIA. Bonsoir, chers invités.
Bonsoir.
À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum du studio Kalangu ayant pour thème maraîchage et ennemis des cultures au Niger. Comment y faire face? Cheibou Madougou Adamou, agronome de formation et représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNNIA. Pour commencer, comment se porte le maraîchage au Niger?
Merci bien. Car le maraîchage au Niger est pratiqué un peu partout dans toutes les régions du Niger et les producteurs s'y donnent énormément pour pouvoir vraiment combler les difficultés liées aux cultures pluviales, surtout avec l'avènement du changement climatique. Les pluies sont un peu irrégulières. Donc, en ce sens, les producteurs sont vraiment engagés et pour faire le maraîchage.
Ça veut dire que ça contribue à renforcer la sécurité alimentaire, c'est ça?
Et ça contribue beaucoup même à renforcer la sécurité alimentaire au Niger.
Et quels sont les fruits et légumes que le Niger arrive à produire suffisamment jusqu'à en exporter?
En tout cas, au Niger, pas mal de produits sont cultivés. Mmh. Et notamment, on peut parler de l'oignon, où on sait que le Niger est un grand producteur et exportateur d'oignons.
Nous avons une référence à Galmi.
Oui, à Galmi. Il y a d'autres localités comme Tillabéri, il y a Agadez, il y a Maradi. Donc, pratiquement dans ces régions, l'oignon est bien cultivé.
On voit bien que le Niger exporte l'oignon, on le sait.
Oui.
Les autres produits, c'est...
Oui, il y a la pomme de terre, il y a la tomate, il y a la pastèque. Donc, il y a des zones de production de pastèque, melon. Donc, il y a une zone qui est vraiment la pastèque est produite, notamment quand on prend la zone de Tibiri. Il y a vraiment une grande production de pastèque et pendant le mois de Ramadan, donc les centres-villes sont beaucoup ravitaillés voilà, avec ces produits. Donc, en dehors.
Vous avez également la patate douce à Balayaga, par exemple.
Oui, il y a la patate douce, il y a le manioc. Donc, toutes ces cultures sont vraiment produites en grande quantité ici, au Niger.
Et on arrive à en exporter, c'est ça?
Pas tout. Donc, entre autres, ce que je peux dire, il y a l'oignon, il y a la pastèque sur certaines zones et également. Il y a la pomme de terre, donc ils sont vraiment exporter.
Merci beaucoup, Cheibou Madougou Adamou, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA. Vous pouvez déjà nous dire combien de coopératives vous avez au niveau de la fédération?
Oui, la Fédération des coopératives maraîchères a jusqu'à 1003 coopératives.
Mm-hmm.
Et 107 unions.
Mmh.
Donc, comme nombre...
Vous êtes présent sur l'ensemble du pays, disons les 8 régions,
les 8
parce
régions
que le territoire est très vaste.
Mmh. Et la fédération est présente
au
partout.
Niveau des 8 régions.
Voilà, comme mmh. membre individuel, elle a jusqu'à 42 000 membres.
Mmh. 42 000 membres.
42 000 membres.
Mmh. Composé essentiellement de paysans.
Des hommes et des femmes. Oui, c'est des paysans, mmh. c'est des producteurs. Mmh. Essentiellement des producteurs.
Merci beaucoup. On va voir tous les efforts qui sont en tout cas déployés pour renforcer vos capacités en tant que fédération et arriver donc à booster cette agriculture irriguée qui vient en appui donc à la campagne agricole qui parfois ne répond pas aux attentes, d'où l'importance de ces cultures maraîchères justement. Docteur Haouye Adamou, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique INRAN. Comment l'Institut national de la recherche agronomique INRAN accompagne le secteur maraîcher au Niger, vu son importance telle que ça a été expliqué par le représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger?
Nous vous remercions pour nous avoir invités. Pour répondre à votre question, l'INRAN accompagne les producteurs maraîchers en leur donnant des conseils sur comment produire. Nous sommes une institution qui travaille avec les producteurs. Et donc, nous leur donnons des conseils. Des fiches techniques sont produites chaque année. Dans certains domaines, nous sommes un grand producteur de semences de base. Dans, par exemple, pour le cas de l'oignon, nous produisons des semences que nous donnons au milieu paysan, au milieu des producteurs.
Ça veut dire que ces semences permettent d'avoir des productions plus importantes, c'est ça?
Oui, c'est des semences de qualité, de très haute qualité, que nous produisons et que nous ne donnons co-producteurs de semences au niveau du monde paysan. Nous, ce sont des semences de base que nous faisons, lesquelles semences de base sont ventilées au niveau des producteurs maraîchers qui, eux, produisent de la semence, mais de la semence qu'on appelle R1. D'accord? Donc, eux-mêmes ventilent au niveau des autres producteurs. Donc, nous les aidons bien sûr dans ça. La semence est quand même une partie importante de la production.
Bien sûr.
Si vous avez une bonne semence, vous êtes déjà presque sûr que à 50%, vous avez une bonne production. Bien sûr, si les autres conditions
sont maintenues, il y a d'autres facteurs. La fertilité du sol.
La fertilité du sol, les ennemis de culture.
Voilà.
Les ennemis de culture qui sont un facteur limitant dans beaucoup de cas à la production des cultures maraîchères et de même des autres cultures. Donc, l'INRAN, en tout cas, s'attelle à apporter son aide dans tous les domaines, aussi bien de la production de semences, la formation et un peu aussi, disons, dans le conseil au niveau, surtout de la protection. Parce que comme je vous ai dit,
protection
des végétaux.
Protection des végétaux,
parce que un des facteurs limitant à la production, c'est vraiment les attaques parasitaires. Et là, l'INRAN accompagne les producteurs dans ce sens, dans la lutte contre ces ravageurs-là. Vous savez bien que la production maraîchère, c'est une production irriguée en général, et qui dit irrigation dit propension des attaques de cultures maraîchères.
Les
ravageurs, les ennemis des cultures. Donc, dès qu'il y a de l'eau, il y a beaucoup de ravageurs. Et donc, dans ce sens que nous, notre intervention est très, très importante. Nous la faisons aussi avec d'autres structures comme la Direction générale de la protection des végétaux. Nous la faisons aussi avec des structures comme le RECA, qui nous accompagne dans la diffusion de nos fiches techniques envers les producteurs. Et bien sûr, d'autres structures comme l'agriculture, aussi la Direction générale de l'agriculture, qui nous aide aussi à un peu, disons, diffuser l'information auprès du monde paysan.
Merci beaucoup, docteur. Monsieur Cheibou Madougou Adamou, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. S'il faut parler aujourd'hui des grands défis, quels sont les problèmes que rencontrent les maraîchers au Niger et qui affectent leur rendement?
Par rapport aux difficultés, en tout cas, pour le maraîchage, les grandes difficultés rencontrées par les producteurs, c'est les attaques.
Les attaques
des ennemis des cultures. Donc, c'est qui...
C'est le premier ou l'un des premiers, on va dire.
C'est l'un des premiers, parce qu'il y en a d'autres. Il y a la question des fertilités des sols. Il faut faire des actions, voilà, aider à renforcer la capacité des sols, donc la fertilité des sols, quoi, à produire.
L'autre problème, c'est également la question...
La gestion des ennemis des cultures.
Des ennemis des cultures.
Voilà. En dehors des infrastructures qui sont là pour... et avoir de l'eau, et faciliter le système d'irrigation. Donc, tout, c'est des difficultés. C'est des difficultés qu'il faut y penser.
Oui, c'est vrai. Parfois, quand la production se fait à une quarantaine déjà de mètres du fleuve, les paysans ont des difficultés parce que quand on fait trop de va-et-vient, on est déjà fatigué, alors qu'on peut faire fonctionner un système qui permet d'irriguer et donc de transporter l'eau à des dizaines de mètres, c'est ça?
Ou plus, selon les systèmes installés sur les sites.
Merci beaucoup. Et parmi ces problèmes que rencontrent les maraîchers au Niger, comme vous l'avez dit, figure donc l'invasion des ennemis des cultures. Docteur Haouji Adamou, chercheur à l'ILRAN, quels sont les différents types d'insectes et autres ennemis des cultures irriguées au Niger?
Merci beaucoup. Bon, moi, le terme invasion est un peu inapproprié.
C'est-à-dire, ils envahissent.
Les cultures subissent, si vous voulez, les attaques des ravageurs, des ennemis de culture en général. Et les ennemis de culture sont classés en deux groupes. Vous avez ce qu'on appelle les ravageurs et ce qu'on appelle les maladies. D'accord? Parmi les ravageurs, vous avez les insectes, vous avez les acariens qui sont des araignées, vous avez des nématodes qui sont des tout petits vers de terre qui sont dans le sol et qui s'attaquent aux cultures.
Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas que des insectes?
Il n'y a pas que des insectes. Il n'y a pas les insectes, c'est vrai, c'est la part la plus importante parmi les ravageurs. Mais vous avez donc, comme j'ai dit, les acariens, vous avez donc les mollusques parfois même qui s'attaquent aux cultures. Et au niveau des maladies, vous avez plusieurs catégories de maladies qui sont virales. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons. Donc vous avez toute une gamme d'ennemis de cultures qui peuvent s'attaquer aux cultures irriguées et même aux autres cultures non irriguées. Voilà, donc... C'est vraiment une panoplie d'ennemis que nous avons sur nos cultures maraîchères et surtout sur les cultures maraîchères. Et en ce moment, quand vous dites, je reviens à votre mot invasion, depuis un certain temps, nous assistons à des invasions biologiques. Des invasions, c'était des insectes qui nous viennent d'ailleurs, qui ne sont pas présents, qui n'étaient pas présents au Niger et qui maintenant, avec le développement du commerce international, font leur entrée au Niger. Il y a quelques années, nous avions rencontré un petit insecte qui détruit la tomate, qu'on appelle Tuta absoluta, qui est rentré au Niger en 2013 et en une année, ça a pratiquement envahi tout le Niger. Une deuxième espèce d'insecte qui est rentrée au Niger en 2016, donc sur le maïs, c'est ce qu'on appelle la chenille légionnaire d'automne. Ça, c'est, les deux sont des invasions biologiques et qui cause d'énormes dégâts sur nos cultures. Aujourd'hui, il est
ces insectes sont toujours là.
Sont toujours là. Il est presque impossible de faire la tomate. Il est presque impossible de cultiver le maïs aujourd'hui sans faire face à ces deux ennemis dont je vous parle.
Qui viennent d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs.
Dans l'agriculture, c'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les criquets pèlerins, c'est-à-dire qui viennent de loin mais qui arrivent à certains.
Oui, mais au moins les criquets pèlerins, c'est vrai, ils viennent, ils passent au Niger, c'est le Sahel, c'est leur zone d'action. Mais les deux espèces dont je vous parle viennent d'Amérique latine. Ça ne vient même pas du continent africain. Ça vient de l'Amérique latine, les deux. Donc, avec le développement du commerce international, il faut s'attendre à tout.
Comment ils font pour venir, ces insectes?
Ben, ils prennent l'avion, comme vous et moi. Bon, je vais dire, c'est vraiment les moyens de transport. Ils peuvent venir à partir des bateaux. Ils peuvent venir à partir de l'avion. Vos valises, les valises des voyageurs. Tout ça, ce sont des moyens par lesquels... Par exemple, le dernier ravageur dont je vous ai parlé sur le maïs, s'est rentré en Afrique à partir du Nigeria. Et en 6 mois, tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara ont été attaqués en 6 mois. 44 pays ont été attaqués à partir du point de départ qui est le Nigeria. Et on pense que c'est venu ou par bateau ou alors par l'avion avec les bagages des voyageurs.
Oui, voilà. Parce que les insectes, ils ont une vitesse qui est très faible et ils ont une espérance de vie qui est très limitée.
Pas nécessairement. L'insecte dont je vous parle, pour le maïs, c'est une espèce qui peut voler en une nuit jusqu'à 150
km.
Ça veut dire que, vous voyez, 4-5 jours, en tout cas en une semaine, 10 jours, vous allez le retrouver à Zender.
Et après, il y a la procréation.
Il y a tout.
La survie de l'espèce.
Et il profite des vents aussi pour se déplacer. Voilà, donc vraiment, nous avons beaucoup de problèmes. Disons, moi, j'ai dit que c'est un facteur limitant à la production maraîchère.
Donc, en tout cas, les producteurs nous le disent très souvent quand on va dans ces zones. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont peur de cultiver, c'est comme les inondations. Certains ont peur de ne pas être finalement inondés par la crue du fleuve et tout ça. Mais aujourd'hui, quels sont les dégâts que causent ces insectes ravageurs et les autres ennemis des cultures irriguées?
Les dégâts sont énormes. Disons, le premier dégât, c'est la diminution de la production en termes de quantité. Donc, quand l'insecte attaque, si c'est de la tomate, vous avez l'habitude de faire 10 tonnes hectare, ou bien, disons, 20 tonnes hectare, ou quand vous avez une attaque de certains insectes, par exemple, vous pouvez tomber à 5 tonnes hectare. C'est quand même beaucoup.
Bien sûr.
Donc, vous avez aussi une détérioration de la qualité du produit. Par exemple, si vous avez remarqué au niveau des oranges, au niveau des citrons, il y a des toutes petites pustules, donc des taches que vous voyez qui détériorent la qualité. Vous amenez ça au marché, donc ça diminue la valeur marchande de votre produit.
Bien sûr.
Donc ça c'est... Et maintenant il y a aussi...
On est obligé de vendre moins cher.
Vous êtes obligé de vendre moins cher et parfois les gens ne vont même pas acheter. D'accord. Et vous avez aussi, disons, le découragement du producteur. Ça joue sur lui. Vous faites le semis, enfin d'abord le labour, le semis, le cerclage, l'application de l'engrais, et c'est vers la fin qu'un insecte intervient ou un ravageur intervient et il vous détruit pratiquement toute votre parcelle. Vous êtes découragé. Ça aussi, c'est un impact très important.
Certains ont même envie de changer de métier.
Ils changent de métier, ils émigrent pour aller à la côte, généralement. Il y a une année où, avec l'insecte dont je vous ai parlé, sur la tomate, ici à Bourbourg-Cabé, à 15 km, il y a des producteurs qui sont partis à l'aventure parce que leur parcelle de tomate avait été totalement dévastée. Voilà, donc disons, les dégâts sont énormes et je pense que face à ça, il faut trouver des méthodes de lutte. Et les producteurs ne restent jamais les bras. Il essaie, il fait tout. Il tente, en tout cas, d'enrayer la menace, même si parfois la menace est plus importante et plus forte que le paysan.
Merci beaucoup, docteur. Nous entamons la deuxième partie du forum du studio Kalangu de ce soir, portant sur le thème « Maraîchage et ennemis des cultures au Niger, comment y faire face ?» Partie dans laquelle nous verrons à présent comment remédier aux invasions des ennemis des cultures pour mieux booster l'agriculture irriguée au Niger. Cheibou Madougou Adamou, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA, sur le terrain, comment se fait la lutte contre l'attaque des ennemis des cultures irriguées?
Vous savez, les attaques des ennemis des cultures causent d'énormes problèmes. Donc, il faut que le producteur puisse lutter contre ses ennemis des cultures pour avoir des rendements et également garder la qualité de ses produits.
Ça a été dit, il y a beaucoup de difficultés, mais habituellement, qu'est-ce qu'ils font, les producteurs, quand ils se retrouvent dans cette situation?
Puisque les producteurs ont un savoir-faire, leur savoir-faire. Donc, ils peuvent faire... ce qu'on appelle la rotation des cultures, l'association des cultures, puisqu'il y a des plantes qui sont répulsives, donc repoussent un peu les ennemis des cultures, ils les font. En dehors de ça,
Quelles plantes, par exemple?
Par exemple, quand on prend le basilic, citronnelle, donc c'est des plantes qui repoussent un peu les ennemis des cultures. Il y a également les menthes, donc c'est des plantes répulsives. Donc, en dehors de ça...
Ces ennemis n'aiment pas attaquer les menthes, par exemple?
Il y a certains ennemis qui n'aiment pas attaquer à cause de l'odeur. Donc, ils ne vont pas attaquer. Et voilà les cultures principales.
Ça veut dire qu'en résumé, c'est stratégique lorsqu'on voit que le producteur essaye d'avoir une variété.
Effectivement, c'est une stratégie.
Les ennemis des cultures ont des préférences dans leur attaque, c'est
effectivement,
ça?
Je ne dis pas tout, mais certains ennemis des cultures ont des préférences. Donc, c'est pour cela que les producteurs utilisent leur savoir-faire pour associer ces cultures afin de diminuer les dégâts causés par ces ennemis. Donc, il y a également les produits que les producteurs utilisent, les pesticides chimiques qu'ils utilisent pour traiter ces ennemis des cultures, ou bien les méthodes de lutte botanique avec les biopesticides que les producteurs fabriquent eux-mêmes pour lutter contre ces ennemis des cultures. Donc, il y a pas mal de méthodes qu'on utilise sur le terrain pour gérer ces ennemis des cultures, puisqu'il faut savoir gérer les ennemis des cultures. Ce n'est pas tous les insectes qui sont des ennemis. Il y a des amis également. Donc, il faut gérer de façon
efficace. C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui arrivent sans...
Qui contribuent au développement même sans faire des dégâts, qui sont des amis. Donc, il y a des vers qui contribuent à fertiliser les sols. Donc, vous voyez, non.
Il y en a qui attaquent.
Il y en a qui attaquent. Voilà. Donc, il faut savoir gérer. Il ne faut pas tout détruire. Mais il faut essayer de gérer les ennemis qui causent plus de dégâts à ces cultures.
Merci beaucoup, Dr Haouji Adamou. Il a expliqué justement qu'on a beaucoup d'insectes, mais ce ne sont pas tous les insectes qui attaquent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce niveau?
Disons, ce qu'il dit est vrai. Vous avez, je vous ai dit, les différentes familles auxquelles appartiennent les ravageurs en général, les ennemis des cultures, parmi lesquels vous avez les insectes. Il y a des insectes qui sont des insectes ravageurs, il y en a d'autres qui sont bénéfiques pour l'agriculture. Prenez le cas des abeilles uniquement. Les abeilles, ça intervient dans la fécondation. Donc, si vous avez des abeilles, vos plantes seront bien fécondées, vos fruits seront nombreux. Vous avez d'autres qui luttent contre les insectes ravageurs. Et le cas précis, c'est pas encore dans les cultures maraîchères, mais quand même chez le mil, vous avez une guêpe qui est élevée au laboratoire et qu'on va lâcher dans les champs et qui cherche l'insecte ravageur pour pouvoir le détruire. Donc, tout n'est pas nuisible dans la nature. Il y a des insectes nuisibles comme il y a des insectes qui ne sont pas nuisibles et qui contribuent à l'amélioration des cultures. Donc, sincèrement, il faut, je pense... C'est pourquoi la lutte est un peu difficile, la lutte contre les ravageurs. Parce que quand vous... Je prends le cas précis de l'utilisation des pesticides chimiques. Quand vous faites une pulvérisation d'un insecticide chimique, vous ne tuez pas que les insectes ravageurs, vous allez tuer aussi les insectes qui sont dits des auxiliaires de l'homme.
Justement, il a parlé, docteur, de cette utilisation des pesticides chimiques. Ça a des conséquences, certainement, c'est ça, sur la santé, mais également sur l'environnement?
Bien sûr, bien sûr. Les pesticides chimiques, tout pesticide chimique est dangereux. Il n'y a pas un seul pesticide chimique qui ne soit pas dangereux. C'est dangereux pour l'homme, donc le producteur lui-même.
C'est vrai, les consommateurs, quand on pulvérise dans une chambre, il faut sortir.
Voilà, maintenant on
laisser
est au champ.
La chambre fermée, on revient pour ne pas respirer l'odeur. Ça veut dire que le produit a déjà fait son travail avant de rentrer.
Voilà, donc le producteur qui applique le produit dans son champ, lui-même il s'expose parce que généralement il n'utilise pas les équipements individuels de protection. Deuxièmement, vous et moi, les consommateurs, les produits qui est appliqué sur un fruit peut se retrouver dans notre assiette et donc ça nous contamine déjà.
Ça veut dire à long terme même, des conséquences sanitaires.
C'est clair. Donc vous avez aussi le gibier, c'est-à-dire les autres auxiliaires de l'homme. Vous avez donc les abeilles, vous avez d'autres insectes qui peuvent nous aider à lutter contre notre insecte ravageur qui aussi... Ces insectes-là sont touchés par les insecticides de synthèse. Donc, ça pollue la nappe phréatique. Et si vous avez un puits à côté, vous pouvez polluer disons, l'eau, les eaux de ce puits-là, mm-hmm. et toute personne qui prend cette eau va aussi se contaminer. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très, très dangereux du point de vue de la santé humaine, mm-hmm. et c'est pourquoi leur utilisation est très, très, si vous voulez, encadrée. Mm-hmm. En principe, ça devait être encadré, mm-hmm. et nous avons pour cela la Direction générale de la protection des végétaux, qui est le service, disons, qui met en œuvre les politiques nationales en matière de protection des végétaux. Mmh. Donc, qui encadre un peu l'utilisation de ces pesticides dans notre pays. Malheureusement, le constat est très amer parce que les producteurs s'approvisionnent un peu partout en pesticides, de n'importe quoi, des pesticides non homologués, des pesticides qu'on vend comme des cacahuètes sur le marché.
Donc les paysans se ravitaillent comme ils veulent, c'est ça, docteur?
Les paysans se ravitaillent n'importe où, mm-hmm. n'importe quand, mm-hmm. n'importe comment. Et ce n'est pas bon. Mm-hmm. Normalement, un producteur, quand il a une attaque dans son champ, par exemple un insecte, il doit prendre l'insecte, un échantillon de cet insecte-là, donc mm-hmm. des spécimens, pardon, de cet insecte, il l'amène chez l'agent d'agriculture le plus proche, il lui montre l'insecte, mm-hmm. qui, en fonction de ses connaissances sur l'insecte, va mm-hmm. lui prescrire comme un médecin. Et maintenant, on lui dit, voilà, il y a dans tel endroit le produit homologué qu'on doit acheter, mm-hmm. ou le produit approprié, mm-hmm. surtout parce que nous avons vu dans certains sites maraîchers où on conseille aux producteurs d'utiliser tel produit contre telle attaque. Mais si c'est un insecte qui attaque et que vous utilisez un produit qui devait normalement tuer un acarien, mm-hmm. ça ne va pas marcher. Et si le produit que vous utilisez, vous achetez sur le marché, n'est pas bon, là aussi, ça ne va pas vous donner satisfaction. L'un dans l'autre, il faut former les producteurs à la dangerosité des produits. Mm-hmm. Il faut leur donner l'information où trouver le bon produit et donner l'information qui peut les aider à mmh. appliquer le produit. Parce mmh. que parfois, ils appliquent. Il y en a qui ont le bon produit, mais ils ont un mauvais appareil pour le traitement. Mmh. Disons, il y a plusieurs facteurs qui interviennent.
Ça veut dire qu'il faut avoir un appareil même pour utiliser les pesticides.
Ah oui. Mmh. Il faut au moins une petite dose de technicité. Mmh. D'abord, il y a un appareil pulvérisateur généralement mmh. hein, qu'on doit utiliser. Lequel appareil a un certain nombre de mécaniques quand même qu'on doit respecter pour mmh. pouvoir appliquer le produit de manière uniforme dans son champ. Mmh. Si tout ça n'est pas respecté, vous allez vous dire, le produit que j'ai utilisé n'est pas efficace, mmh. alors que la faute vient de vous.
Là, c'est le mode d'emploi, donc.
Le mode d'emploi.
Mmh. Et parfois, mais est-ce que l'appareil coûte cher?
L'appareil, peut-être que l'autre est encore mieux placé que moi.
Il tourne autour de 16-17 000 comme ça.
16-17 000.
Oui. Mmh.
Donc, 16-17 000, on ne demande pas à un producteur d'acheter l'appareil. Mm-hmm. Plusieurs producteurs peuvent s'associer pour acheter un appareil mm-hmm. et l'utiliser mm-hmm. à tour de rôle.
Ou prendre ça en location,
pourquoi pas. Mm-hmm. Normalement, moi, je pense qu'il doit même avoir maintenant des jeunes qui doivent se mettre dans ce business-là, mm-hmm. hein, acheter un certain nombre d'appareils et les mettre en location auprès des producteurs maraîchers. Mm-hmm. Je pense que ça peut marcher. Mm-hmm. Mais si l'appareil ne marche pas bien, vous avez une mauvaise application de votre produit. Et si vous avez un mauvais produit, même si l'appareil marche bien, vous avez encore, un mauvais résultat. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'on doit réunir ensemble pour que l'on puisse avoir un bon résultat en termes de lutte contre les ravageurs. Mmh. Tant qu'on ne fait pas ça, on va toujours... On va même créer des résistances. Mmh. C'est-à-dire, au lieu que le produit tue l'insecte, mmh. si l'insecticide est mal utilisé, eh bien, on va arriver à un moment où l'insecte va résister à l'insecticide, par exemple. Mmh. Et à ce moment-là, toute lutte sera inefficace. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça doit sortir dans les formations que nous, on donne mmh. aux producteurs. Et on le fait tout le temps. Hein? Chaque fois qu'on donne une formation sur la lutte contre les ravageurs par utilisation des pesticides chimiques de synthèse, on leur dit voilà les conditions d'utilisation de ces pesticides-là, mm-hmm. sans quoi vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats. Mm-hmm. Voilà à peu près ce que nous faisons, nous donnons comme formation, en tout cas aux producteurs et même à leurs encadreurs, les agents de vulgarisation agricole, aussi bien les agents étatiques que les agents des ONG et des autres structures qu'on trouve toujours sur le terrain aussi.
Merci pour votre éclairage, Dr Haouji Adamou, représentant de l'INRAN Cheibou Madougou Adamou, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Les maraîchers sont-ils suffisamment sensibilisés sur ces questions?
Effectivement, les maraîchers sont sensibilisés, mais il faut également continuer à renforcer leurs capacités, surtout en ce qui concerne l'utilisation de ces produits chimiques qui sont très dangereux pour l'environnement, la santé des producteurs, la santé des commerçants, sur le terrain, on constate que les produits, comme l'avait dit le docteur, sont très mal utilisés. Tu vas faire un traitement avec les pesticides chimiques sans équipement. Tu vas venir comme ça, sans équipement. Or que pour ces produits-là, il faut être bien équipé. Voilà.
Il faut porter des gants, des masques, des lunettes, des bottes. Parce qu'on ne respire pas ce qu'on puisse
venir. On ne respire pas. Puis c'est trop dangereux pour la santé. Comme l'avait dit le docteur, il n'y a pas un produit chimique sans danger. Il n'y a pas. Donc il faut se protéger. Donc sur le terrain, on constate de façon générale que les producteurs ne se protègent pas et ne maîtrisent pas également les paramètres d'utilisation. Donc, il faut...
C'est quoi ces paramètres d'utilisation?
Par exemple, la direction du vent. Il faut maîtriser. Tu ne peux pas pulvériser. Et en même temps, tu vas te pulvériser même en tant que producteur.
Oui, bien sûr, quand on a un sens contraire.
Donc, tout ça, là, il faut sensibiliser. Il faut continuer à renforcer les capacités de ces producteurs. En tout cas, les chercheurs, les institutions de recherche, les OP. Et comme la FCMNA, les RECA, ils continuent à sensibiliser ces producteurs-là. Mais ça ne manque pas, puisque toujours, quand on regarde sur le terrain, ces paramètres ne sont pas respectés. Donc, il faut lutter. Et également, la maîtrise même des types des pesticides, puisqu'il y a des pesticides non homologués qui ne sont pas autorisés à être utilisés, mais on les voit partout.
Oui, puisqu'il y a un business qui se crée autour de la demande.
Autour de la demande, voilà, et c'est dangereux, puisque quelque chose qui n'est pas autorisé, et on achète, on utilise, ça veut dire qu'à long terme, il y aura des conséquences. Voilà, donc il faut sensibiliser ces producteurs à utiliser les bons produits.
Les bons produits. Voilà. Docteur Haouji Adamou, chercheur à l'INRAN, qui donne l'homologation pour ces pesticides chimiques?
Au Niger, il n'y a pas de service d'homologation. L'homologation des pesticides vendus au Niger, ça se fait au niveau du CILS, des pays membres du CILS. On appelle, à un moment donné, il y a un comité sahélien des pesticides, qui fait l'homologation pour, à l'époque, 9 pays. Maintenant, la structure là a évolué. C'est devenu le COHP, le Comité Ouest-Africain d'homologation des pesticides, qui fait maintenant l'homologation des pesticides pour 17 pays, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie. Donc, au Niger, il n'y a pas une structure qui fait l'homologation. Le Niger a donné cette prérogative au CILS.
Le CILS qui est donc le comité inter-État de lutte contre la sécheresse, au Sahel.
Le pays du Sahel, voilà. Et là, donc, il y a le comité sahélien des pesticides, comme j'ai dit, qui a muté maintenant pour donner naissance au comité ouest-africain d'homologation des pesticides. Donc, tout pesticide homologué au Niger porte, si vous voulez, la griffe de ce comité-là.
Du CILS.
Du CILS. Donc, au Niger, vous n'allez pas dire, non, moi j'ai un pesticide, je veux l'homologuer. Non, ça ne passe pas, il faut aller déposer votre dossier au niveau du CILS.
Docteur, aujourd'hui, quelles sont les solutions alternatives face à ce problème d'utilisation? Qu'est-ce que aujourd'hui vous préconisez aux producteurs qui ne maîtrisent pas beaucoup de choses?
Il ne faut pas se fatiguer. Il faut continuer à renforcer leurs capacités. Il faut toujours les former. Et je crois qu'un jour, on arrivera donc à avoir des producteurs bien formés. Une fois qu'on aura des producteurs bien formés, eh bien, je pense que ça va faire tache d'huile et les gens vont commencer à prendre conscience du danger. Mais donc, moi, je dis, il faut toujours les former, continuer à les former. Et maintenant, il y a d'autres alternatives, comme vous dites, il en a déjà parlé, l'utilisation des biopesticides. Il y a des biopesticides à base de plantes, des plantes à effet pesticide, à vertu pesticide, qu'on utilise dans les champs, qui pour le moment n'ont pas montré de nocivité particulière. Donc on pense que...
Quelles plantes par exemple?
Comme le nîmes. Les graines de nîmes, la poudre de graines de nîmes, le nîmes, vous pouvez avoir, il a dit, le bossia, par exemple le anza, généralement en Hausa, généralement c'est anza, bossia sénégalensis. Vous avez les citronnelles, vous avez les papayers, donc les feuilles de papayers qui sont utilisées pour repousser les insectes. Donc on fait une sorte d'extrait à queue et on pulvérise sur la culture. Ça, c'est pour le moment des méthodes alternatives
qui sont bio.
Et bien sûr, maintenant, on tend vers, comme on dit, l'agroécologie. Et on est en transition vers l'agroécologie. Et vous avez un certain nombre de méthodes, comme par exemple le push-pull. Ça veut dire, vous faites une association de votre culture avec une culture qui repousse l'insecte. Une autre plante qui repousse l'insecte. Donc, vous protégez votre culture avec la culture intercalaire qui est dans votre, que vous plantez vous-même. Donc, c'est des méthodes qui sont en évolution, qui sont en train d'être évaluées. Et une fois l'évaluation finie, je pense que ça va passer en milieu paysan à travers les vulgarisateurs, les agents de vulgarisation, les ONG et autres pour donner l'information, cette information aux producteurs pour mieux gérer les insectes, pour mieux gérer les maladies, pour mieux gérer les acariens qui se trouvent dans leur champ.
Docteur, est-ce à dire que vous déconseillez ces pesticides chimiques?
Disons, à terme, oui, à terme. Dit, on est en transition vers une agroécologie.
C'est-à-dire, à défaut d'avoir un remède, on peut l'utiliser, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire, en dernier recours. En dernier recours, on peut utiliser les pesticides chimiques de synthèse, mais dans les normes aussi.
Oui, ça veut dire que là, le producteur doit faire l'effort d'apprendre comment utiliser ces pesticides, voilà. Tout au moins.
Voilà. Une fois que c'est homologué, et maintenant, il faut respecter, disons, les différentes étapes, les modes de traitement. Il l'a dit, il faut d'abord se protéger. Il faut, par exemple, il y a des producteurs qui viennent, en plein 14 heures, tu les vois en train de traiter. Ça ne peut pas être efficace. Hein, sous le soleil, vous voyez, toute goutte d'eau qui tombe sur la plante se transforme en une sorte de prisme donc, qui peut brûler même la plante. À 14 heures, vous avez la chaleur qui vient, disons, au niveau des gouttelettes d'eau, lesquelles gouttelettes d'eau deviennent, disons, c'est comme des loupes. Vous voyez, les loupes, quand on les met au soleil, ça peut même allumer le feu. D'accord? Donc, tout ça, il faut quand même amener le paysan, le producteur, à une bonne utilisation de ces pesticides chimiques de synthèse.
Merci beaucoup, on vous a bien compris. Donc, il faut d'abord faire recours aux solutions alternatives bio. À défaut, s'il faut utiliser les pesticides chimiques, il faut prendre des pesticides chimiques qui sont homologués, mais également, il faut savoir les utiliser. Cela nécessite donc un renforcement de capacité important à ce niveau. Merci à vous, Dr. Haoudji Adamou, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique INRAN, Cheikh Boumadougou Adamou, agronome de formation et représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA. Quelles sont les attentes des coopératives maraîchères du Niger allant dans le sens d'une meilleure lutte contre ces ennemis des cultures maraîchères et le développement de l'agriculture irriguée de façon générale au Niger?
Les attentes, c'est vraiment de renforcer les capacités de ces producteurs à mieux gérer ces ennemis des cultures en utilisant les produits alternatifs et également les bons produits homologués. Donc, pour vraiment augmenter les rendements des cultures et également augmenter la qualité de ces produits. Puisque s'il y a une perte de qualité, il y a une perte économique, donc les producteurs ne vont pas s'en sortir. Donc c'est d'accorder vraiment une importance à cette production agricole, mm-hmm. puisqu'on est obligé de produire, sinon ça va être difficile.
Mm-hmm.
Donc, on est obligé de manger. Si à chaque fois on importe, ça ne va pas du tout régler les problèmes.
Ça contribue en tout cas à aider les ménages, puisque quand la vie coûte cher, on dit souvent c'est parce que le panier de la ménagère arrive à être difficilement gagné.
Effectivement.
Voilà.
Et quand
il y a la tomate, les pommes de terre, l'aubergine, les fruits et légumes sont disponibles, on n'a pas beaucoup à dépenser pour bien manger, c'est ça?
Effectivement.
Mm-hmm.
Et également pour les producteurs, hein, ils ont les capacités de produire, il faut également les appuyer à écouler ces produits. Il y a problème de conservation, il y a problème d'écoulement et tout. Donc, il faut créer vraiment un système pour pouvoir écouler ou bien conserver ces produits. En tout cas, il y a des mécanismes qu'on est en train de faire pour la conservation, notamment la pomme de terre. Donc, stocker et vendre après. Et pour la tomate, c'est des comptoirs de commercialisation que la FCMNIA est en train de créer pour faciliter l'écoulement, pour permettre aux producteurs d'écouler facilement leurs produits. Donc, c'est des mécanismes comme ça qui sont en train d'être développés au sein de la fédération pour l'écoulement de ces produits.
Merci beaucoup, Cheibou Madougou Adamou, agronome de formation, représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMNIA, Dr Haoudji Adamou, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique INRAN. Pour terminer, quelle piste de solution préconisez-vous face à ces différentes attentes visant à mieux booster les cultures maraîchères?
Pour booster la production, il faut intervenir sur un certain nombre de leviers. D'accord? Vous avez au niveau de la fertilité des sols, donc au niveau des engrais, il faut que ce secteur-là apporte, si vous voulez, sa contribution en inondant, je dirais, le pays avec de très grandes quantités d'engrais pour qu'on puisse produire. Il faut aussi une bonne protection. On en a parlé.
On en a parlé, justement.
Donc, il faut une bonne protection et pour cela, il faut des produits de qualité. Il faut des producteurs bien formés et disons, il faut qui sont formés et encadrés et donc qui doivent être accompagnés tout le temps. Pourquoi? Parce que si demain le Niger devait aller vendre ses productions à l'étranger, par exemple en Europe, les Européens, pour accepter un produit, ils quantifient les résidus de pesticides sur votre produit. Et si ça dépasse la limite acceptable de chez eux, votre produit est refoulé. Et je pense que pour moi, je suis en train de voir l'avenir de notre agriculture. Ce n'est pas seulement l'autoconsommation.
Bien sûr.
Si c'est l'autoconsommation...
Pour avoir des devises, il faut créer les conditions pour que le producteur puisse constater qu'il arrive à produire et nourrir beaucoup de pays, exporter. Si ça permet d'avoir beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Et ça
encourage, en fait, parce que le problème, quand le producteur n'a pas beaucoup d'argent, il est tout le temps pauvre.
C'est clair.
Voilà, et fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes au thème de ce forum du studio Kalangou qui portait sur maraîchage et ennemi des cultures au Niger, comment y faire face. Nous comprenons donc que les ennemis des cultures maraîchères au Niger représentent une menace importante pour l'agriculture irriguée. Il faut donc faire recours, si possible, au bio, mais même dans le cas où il faut utiliser ces pesticides chimiques, les spécialistes que nous avons invités, qui sont là présents avec nous, expliquent qu'il faut des pesticides chimiques homologué, mais ça ne suffit pas. Il faut également savoir comment les utiliser. C'est un travail de longue haleine, donc qui nécessite un accompagnement important des producteurs afin qu'ils puissent mieux savoir comment se fait cette lutte contre les ennemis des cultures. Nous disons donc merci, Dr Adamou Haoudji, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique, INRAN, et Cheibou Madougou Adamou, agronome de formation et représentant de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN-NIA. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Dégé, à la technique Abdoulaye Yacouba. Agréable soirée à nos auditeurs ainsi qu'à toutes et à tous. Au revoir.